J'ouvre en moi-même un théâtre où se joue un faux sommeil. Georges Bataille, la haine de la poésie. Avec Juliette Bernatché et Simon Dumas.
Bienvenue à La haine de la poésie, une émission qui cherche à mettre en lumière un imaginaire collectif de la poésie, comme une façon qu'elle a d'être à la fois partout et invisible, ignorée même, mais jamais totalement absente de la vie de quiconque. Deux fois par mois, nous vous proposerons une rencontre avec une personne active dans la société, que ce soit sur le plan culturel, politique ou philosophique. Nous leur demanderons ce qu'est la poésie pour eux, et quelle est la place qu'elle prend dans leur vie, et ce, même s'ils n'en lisent pas.
Aujourd'hui à l'émission, on reçoit Julia Caron et Rachel McCrum. Julia Caron est journaliste, animatrice de radio et amatrice d'art. Elle est née à Halifax, en Nouvelle-Écosse, et habite la ville de Québec depuis 2008. Elle se qualifie fièrement de franglophone. Rachel McCrum, quant à elle, est poète, artiste de la parole et animatrice. Elle est née en Irlande du Nord et vit à Montréal depuis 2017. Elle dirige la série Atwater Poetry Project et a publié tout récemment chez Mémoire d'Encrier Le premier coup de clairon pour réveiller les femmes immorales, The First Blast to Awaken Woman Degenerate, traduit par Jonathan Lamy. En invitant Julia à l'émission, j'avais envie de discuter de son rapport aux deux langues dans lesquelles elle vit, le français et l'anglais. Et c'est à donner qu'elle a choisi une poète qui a la même posture qu'elle, une femme anglophone qui œuvre elle aussi dans le milieu francophone. J'avais envie de discuter avec ces deux femmes de leur rapport aux langues en tant que lectrice, mais aussi en tant que poète pour Rachel et en tant qu'animatrice pour Julia. Cela nous a amené à parler beaucoup et de nombreux sujets, notamment de leur bilinguisme, de leur lecture et de féminisme. Petit avertissement, les deux invités passent fréquemment de l'anglais au français et vice-versa. Nous nous excusons d'avance si cela vous incommode. Bonne écoute.
Je pense que la meilleure façon de commencer à répondre à cette question, c'est de compter comment Rachel et moi se sont rencontrés. C'est grâce à Jonathan Lamy qui m'a dit à plusieurs reprises, « Il faut vraiment que tu rencontres ma blonde. » Il faut vraiment que tu rencontres Rachel. À chaque fois que Jonathan et moi, on se croisait dans le salon du livre des Premières Nations, à Koyatonk, ou à certains événements, le salon du livre, des choses comme ça, à chaque fois que je me lançais sur un sujet, puis I was really excited or energetic, il était comme, Rachel m'a déjà parlé de ça, you have to meet Rachel. Et finalement, quand j'ai rencontré Rachel, c'était grâce au festival anglophone à Québec, The Imagination Writers Festival, au Morin Center. Et après, on s'est baladé un petit peu dans les rues du Vieux-Québec. Et je pense que c'était un des premiers sujets qu'on a abordé, Rachel, c'était pourquoi il y a autant de divisions? Pourquoi est-ce que c'est juste le milieu littéraire anglophone et le milieu littéraire francophone au Canada?
Oui, c'est vrai. Donc, j'étais là. En premier, Jonathan m'a dit la même chose tout le temps. You have to meet Julia. You're gonna love Julia. It's gonna be amazing. Mais c'était drôle. Oui, j'étais là à l'imagination, parce que j'étais la coordinatrice de communication et membership pour le Quebec Writers Federation. Donc, ça, c'est pour le milieu anglophone. C'est plus le milieu, les écrivains qui écrivent en anglais, parce que c'est pas tout le monde là qui a l'anglais comme la première langue. C'est pas juste l'idée des anglophones, des francophones, c'est d'écrire dans une langue ou l'autre. Mais aussi pour moi, c'était bizarre parce que je viens d'Irlande du Nord, j'étais en Écosse, je suis arrivée en Québec 2017. Donc, je connais pas le milieu littéraire anglophone ni le milieu francophone en Québec avant ça. Like, it's all new to me. So, à cause de Jonathan, j'ai eu une introduction dans le milieu littéraire francophone avant le milieu anglophone. And I didn't realize when I arrived that that was actually quite weird. That an English language person coming over would start kind of by an introduction into the francophone milieu. But also, quand je suis arrivée, my French was terrible. C'est pas parfait maintenant, mais I was going to these poetry lectures and poetry readings without necessarily understanding everything that was being said on stage. And what was interesting for me was that I could fall in love with the rhythm, with the expressiveness. I was learning the sound of the language before I was learning the vocabulary. And so while my French grammatically is not particularly strong, my written's horrible, I think I can talk with a degree of, there's a confidence in the rhythm, if you know what I mean. And I keep trying to persuade people to go to poetry readings and say, look, even if you don't understand everything, it will give you a sense of the beauty of the fluency of the language. Et même pour l'autre côté, for French francophones, for French language people to go to English poetry readings and go understand the rhythm of the language, understand the expressiveness, understand the beauty of it, so that it's not a political question, it's not a cultural question, it's just there as a matter of rhythm and expressiveness. You know, I mean, you can go to a poetry reading that's in your native language, you know, as we would say in Ireland, your first language. You may not get everything that's being on stage. You know, the words will wash past you. You miss a sentence here, you miss a phrase there. Just because it's happening in another language, I think not to freak out or panic that you're not going to understand everything on stage.
I want to touch on the idea of the fact that there are readers and writers out there who aren't Anglophone or Francophone. You touched on it a bit, Rachel, when you were talking about people who have a different first language or who live and read and write in multiple languages. And often when people say I'm an Anglophone, I kind of bristle because for the last at least decade of my life and for part of my childhood, I really lived between languages, and I feel like that's something that defines me. I've always talked about how I straddle two worlds that, in many different ways as not being from anywhere. And I often point to, you know, where I was born has never been a home to me, and Quebec is the longest I've lived in one place. And even from minute one, I was like, I wanted to be perfectly bilingual. And I still, des fois, je dis ça parfaitement bilingue, mais je pense que ça existe. Ça n'existe pas. Tu peux bien parler deux langues, mais l'idée d'être parfaitement bilingue is false. Et une des choses que je dis souvent pour encourager le monde de soit apprendre le français ou à apprendre l'anglais, c'est l'idée que si tu apprends une nouvelle langue, ton accès à la culture, c'est pas juste que ça double, it becomes so much bigger and so much broader. And des fois, c'est ça qui me rend triste quand je lis un texte en français et je pense tellement à une amie anglophone et ou unilingue. Et je suis comme, but I want you to read this. I have to wait for it to be translated. Je pense à Julie Delporte, This Woman's Work. I was so excited when it came out in English, and I wanted to buy it for all of the friends. Quand je l'ai lu, je voulais l'emporter. I was just so excited that I could do that. Et le nombre de fois que ça m'est arrivé, c'est innombrable. Et comme tu disais, Rachel, le français écrit, c'est difficile. Puis moi, je trouve que je parle bien français, je lis beaucoup en français, mais écrire, c'est complètement autre chose. Mais ça peut avoir des tendances poétiques, ça peut... Il y a beaucoup de potentiel, puis je trouve ça super beau. Puis dommage que souvent, c'est plus une question... C'est rarement ça le but, to give access to more, to see the richness of both, and to see how the two can coexist and make each other better.
Ben oui, c'est vrai. Puis tu le dis, tu sais, avec le festival Imagination, je suis juste allée une fois, puis ça m'a... J'avais tellement été surprise de voir qu'ils ont tellement un public qui est fidèle, mm-hmm. puis des gens que j'avais jamais vus de ma vie.
Qui vivent à Québec depuis... toute leur vie.
C'est fascinant.
Ouais. Et souvent, c'est ça. C'est comme, il y a plusieurs gens à Québec qui sont pas juste anglophones ou juste francophones. et comment les trouver et comment les faire vivre ensemble. Like, you have to just like drag them by the hand and be like, be friends.
And I thought that was really interesting, Julia. I've just been reflecting on what you said, and the phrase that came to mind is, we have to queer this language binary.
Yes, let us queer this language binary. Let's start doing that right now. We already have been doing it. We have been.
May we, Uncle Laws, honestly. Now, it is fascinating to me because it's obviously a matter of politics in Quebec, even if I haven't lived through those years when language was so political and so delineated. Je viens d'Irlande du Nord. Je comprends les situations quand il y a un binary entre les deux choses dans un pays. And it played out here in the language, you know, and even if, you know, a generation of my age or your age, perhaps, Julia, doesn't live by that, I think those scars and those memories, you know, they still exist there. And they exist culturally, and they exist in the cultural institutions. They exist in the funding structures. They exist at that institutional level, you know. And if that's not being confronted, then, you know, that's not going to be healed. They can throw sand over them, but there's still going to be fault lines.
And you're reminding me of my introduction to Quebecois poetry, which was pretty much explicitly political and feminist. I'm thinking of Michel Lalonde's Speak White. I didn't understand it when I first heard it, but I was fascinated by it, and it drew me in, and I wanted to know more about what she was saying in that poem and when she said it and what was going on in the world then. Just these incredible, powerful women at a time of real political strife who were unafraid to reflect that part of themselves and to... Like, I just can't actually imagine what it was like to be a poet or a person or a politician in the 1970s in Quebec. It's just so beyond me.
It's so funny. We were starting to watch the October Crisis videos again. And what really struck me there was all the politicians, of course, they're men, who were presumably French first language, but they speak English absolutely immaculately.
Je trouve ça intéressant que vous évoquiez l'ennemi de la poésie 70 et les femmes qui sont intervenues dans cette soirée-là. Parmi elles, il y avait aussi Nicole Brassard. Donc il y avait Nicole Brassard. Ce qui est intéressant, c'est que Nicole Brassard a vraiment lié militantisme féministe parce que bon, elle a fait, tu sais, ça a été elle était active dans le domaine pendant au moins 40 ans, elle l'est encore en fait, et surtout dans les années 70, poésie formaliste. Donc, si on compare avec Michel Lalonde, Pauline Julien, ou en tout cas, c'est sûr que le poème Speak White de Michel Lalonde, le message politique du poème est assez évident. Alors que Nicole, chez Brassard, c'est soit il y a une scission entre le travail poétique et le travail politique. Ou alors, il y a des vases communicants, mais qui sont plus souterrains. Puis je me demandais, en fait, qu'est-ce qui amène... Quelle est l'utilité d'une parole poétique? Donc, est-ce que Nicole aurait pu faire le même travail sans être poète? Ou est-ce que sa poésie alimentait sa position politique? Nicole a dit, en 75, je pense, dans à Femme d'aujourd'hui, une émission à Radio-Canada qui s'intitulait Femme d'aujourd'hui, « La littérature des femmes sera subversive ou ne sera pas ».
Et puis j'ajoute juste, si Nicole n'avait pas été poète, est-ce qu'elle aurait pu, mais aussi si elle n'avait pas été performeuse, tu sais? Il y a aussi le côté de la performance que Michel Lalonde aussi avec Pauline Julien. Donc, tu sais, il y a aussi ça qui est intéressant, c'est la parole publique dans la performance et la puissance de la voix.
Mais, tu sais, je veux dire, le lien entre les textes littéraires ou... de Michel Lalonde et sa politique sont claires. Elle a écrit « Défense et illustration de la langue québécoise », elle a écrit « Speak White », etc. Alors que les liens entre le centre blanc et les positions politiques de Brassard sont moins clairs. Puis je me demande s'il n'y a pas un autre travail souterrain qui nourrit aussi le travail politique. Et donc, j'allais dire, Julia, je sais que tu es une lectrice d'essais, c'est beaucoup aussi de non-fiction, tu t'intéresses à la théorie. Mais en quoi as-tu besoin de poésie
dans la vie? Qu'est-ce qui t'amène à la lecture de la poésie en particulier, en fait?
Bien, premièrement, je me dis, l'écriture des femmes est la raison que je me comprends autant que je me comprends. Like, okay, let me say it in English. The first thing that comes to mind is really the idea of women's writing being central to who I am and how I understand the world. And I'm immediately trying to remember the first time I read a poem that I connected with, and as opposed to like a class assignment, ou c'est quelque chose que t'es obligé à lire, Shakespearean sonnets and things like that. And I don't think I'll be capable of remembering a specific poem. This will age me, Rachel, and I wouldn't be surprised if your experience is similar, but there's like so much overlap between books, music, and stage. And I think the transition for me from music to stage were political singers like Ani DiFranco, and it wasn't that much of a leap to spoken word. But I can't help but think how many poems by women helped me understand myself and the world. There are so many times where I've read a poem or read a book of poetry, and it's like you almost feel a click. There's just something that you knew was there, and it makes sense in a way that you didn't think it could make sense, or that you might have thought was wrong, and then you're like, oh, someone else feels that way about that one thing.
En fait, ce que je comprends, c'est que peut-être que Nicole Brassard écrit de la poésie pour que t'aider à mieux te comprendre. Si je comprends bien. Donc, toi, tu dis que de lire des femmes, ça t'aide à mieux te connaître toi-même.
Et le monde qui t'entoure aussi.
Absolument. J'ai remarqué que c'est beaucoup de femmes qui ont quelque chose qui me reflète. J'ai pensé tout de suite à Maud Veilleux. Et une des choses qui m'a vraiment frappée quand j'ai commencé à lire sa poésie, c'est je me reconnais dans son écriture, qui est souvent un peu franglais par bout, et aussi le fait qu'elle a grandi dans un contexte où ce que la poésie était... It wasn't even conceived of. Les gens pensaient pas à la poésie. Ils pensaient pas à la poésie sur les bases militaires où ce que j'ai grandi. Le seul poème que la plupart des militaires connaissent, c'est In Flanders Fields, qu'on lit une fois par année. Alors, ces livres ont vraiment, à chaque fois, c'est... It's affectionate de dire, je vois qu'elle prend soin d'elle dans le passé et c'est presque comme si elle parlait à moi, jeune femme, aussi. Les autres autrices, parce que c'est presque uniquement des femmes, Nicole Brossard, que j'ai lue en anglais avant de la lire en français. En ce moment, je suis en train de lire « Maquillée » de Daphné B. Je capote. It's so good. C'est pas de la poésie. J'ai lu un de ses livres de poésie publié par l'Écrou, je crois. Et c'est un essai, mais en même temps, il y a des bouts qui sont tellement poétiques. Puis j'adore le fait qu'il y a une poète, une écrivaine de mon âge qui fait référence à des commentaires YouTube sur des make-up tutorials, et en même temps, elle va citer Derrida ou Luce Irigaray, et puis je suis comme, ça se peut? C'est ça aussi, mon lien avec la poésie, des fois, c'est comme, ça se peut. Sinon, Vanessa Bell, Joséphine Bacon, Laura Doyle Payan, et Simon m'a posé la question tout à l'heure, la poésie, mais la plupart des poètes que j'adore écrivent beaucoup. Elles sont pas uniquement poètes. Elles ont publié des romans ou des essais. Alors je lis tout ce qu'elles font. Mais je vais juste aussi dire que, Rachel, je sais pas si tu avais entendu parler de ce projet-là, mais à un moment donné, il y avait quelqu'un qui a lancé le défi sur Internet en disant, justement pour « to contrast the white male straight canon », essaye de juste lire des femmes pendant un an. Et moi, c'est pas un défi parce que je le faisais de toute façon. Je me suis pas rendu compte comment ça s'est évolué. Mais avec l'exception de Ben Lerner, que je lis sa fiction, I've been reading his books, puis Ta-Nehisi Coates, and that's about it. Like, I don't read men. Mais c'est ça. En général, je lis des jeunes femmes contemporaines québécoises avec un peu du canon, surtout Nicole.
Mais c'est drôle, je ris beaucoup parce que j'ai presque la même réponse que Julia. Il y a les livres partout, c'est une richesse des livres, particulièrement, je trouve des livres de jeunes femmes québécoises en ce moment. Des livres magnifiques comme ça. Donc, Laura Dolpien, oui, là. Beaucoup de choses de mémoire d'encrier, c'est fascinant, la maison d'édition. En Québec, là-bas, c'est Elkana Talby. C'est souvent les femmes ou les écrivains autochtones racialisés, did I say that correctly? Ou immigrants là-bas. Donc, je trouve que leur œuvre, their catalogue, is amazing. I'm reading slightly historically at the moment as well. J'ai envie de comprendre l'histoire littéraire de Québec. Donc, j'ai les trois livres de Nelly Arkham à côté de mon lit en ce moment, en anglais. Pour moi, c'est une question de lire en français parce que je suis lente. Donc, particulièrement pour la poésie, j'ai envie de vraiment comprendre. C'est pas juste une lecture casuelle, like a casual flick-through reading. Donc, j'ai vraiment envie de comprendre tout le sens là. Donc, I have to take my time. Je peux faire 1, 2, 3 poèmes par jour. Je dois traduire, je dois chercher pour les mots, pour les traductions exactes. Je dois vraiment essayer de comprendre tout là. Donc, it's this mix for me between wanting to read in the original language, but I know I'm slow and there's so many books out there to read. Donc, je prends mon temps. Or reading then in what I can get in translation, de comprendre les contextes. For me, I want to go back and understand, okay, Nicole Brossard, Ellen Monette, Nelly Arcan, Josie Yvon, Vicky Gendreau, Denis Vanier, tout le monde comme ça. Like, where is the current writing coming from? Si on va chercher les mots de Veilleux, les autres, les étoiles de maintenant, you know?
Vous entendrez maintenant un extrait de la poésie de Rachel.
My underwear was made of iron. On a street with chewing gum welded to pavements and rubbish bins and dogs and dust and wire fences and raindrops and men, like any street. A skirt or a pair of breasts or let's say a crate of oranges was slowly making its way. Wearing a scold's bridle made of iron and a witch's collar made of iron with the iron spikes facing both out and in, and a chastity belt made of iron and a steel-boned corset reined in tight, a suit of rigid homespun armour that clanked and drew attention and held protection and rebuke in each hand like the severed fiberglass breasts of a shop window mannequin or a sliced forehead or a broken jawbone. What can't get out also can't let anything in. This is how we break in butterflies, they said. Crate of oranges kept walking, and its steel hide kept walking. Broad. In a Belfast sweatbox, slurred and steaming, a country voice dove into my ear. Jesus, you're a hefty one. Believe it was a compliment, he thought. He paid. These shoulders are broad. My mother was a farmer's daughter with a voice that stretched across three fields. From her, I gained blue eyes, childbearing hips, and feet planted family tree trunk to the ground. From her, I learned that self-indulgence is a dirty word, that it is important to get the potatoes on the table for your brothers before you write the application for the university. She did both. The first in the family to live by words rather than by her hands, and she suffered uncharacteristically quiet, I think, for this. It can be hard to explain the weight of paper. In the church hall, after my great-grandmother's funeral, they turn over my palms as they clasp my forearms to see if I have yet managed an honest day's work. I have only one callus to show them, the indentation between the knuckles of the middle finger of my right hand. And therefore I say that of necessity it is that this monstiferous empire of women, which amongst all enormities that this day do abound upon the face of the whole earth, is most detestable and damnable, be openly revealed and plainly declared to the world, to the end that some may repent and be saved. John Knox. The first blast of the trumpet against the monstrous regiment of women, 1558. This is the first blast to awaken women degenerate. The trumpet sounds. All the monkeys are grooming themselves bald in the zoos. Women slither out from gutters and under street lamps. Down from bedsits and from behind garden fences. Foil sail unfolding, irresistible as empty crisp packets on pub table women. Women who sink a bottle of red and rage with wine lips women. Fury unleashed women in stamping, stomping, sweating hordes of women, ranks amassing women. Give me gorilla women and bear women, penguin women and wolfhound women, blue whale women and badger women, yeti, yak, and bison women. Give me caribou women and bone women, bite back beefy women, not your bird women, not your sparrow, crow or wren women, but flamingo women and peacock women, eagle women and pelican women. Give me unnatural women, deranged women, moving, drumming, howling women. Give me mobs of women, chow down on misery women, seismic cunt women, bloody pushy women like a 2 a.m. army march through the veins, women. Give me ruling women and yelling women. Give me unsilent, unwatchful women. Give me monstrous women on the pavements of Cologne women, London women, Tahrir Square women, Belfast women, Stockholm women, Cape Town women, Bangalore women, Glasgow women, before the second trumpet sounds. Before the monkeys can groom themselves bare and repent. Before the streets can fall dark and silent and damned. Please give me my monstrous regiment of women.
Merci d'avoir été des nôtres à la haine de la poésie. Vous avez entendu Julia Caron, Rachel McCrum, Juliette Bernacchi et Simon Dumas. On se retrouve dans 2 semaines avec 2 nouveaux invités. Bonne semaine!
Une production de Rhizome qui remercie CKRL et la Ville de Québec via son entente sur son développement culturel avec le ministère de la Culture et des Communications du Québec.